Voilà, il est 12h30. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Hein. Désolé, on ne peut pas pousser les murs, hein, malheureusement. Mais voilà, ça veut dire que Centre Midi Sciences fonctionne très bien. Celui-ci s'inscrit dans la programmation de notre exposition Jour sur la nuit. J'espère que vous avez eu l'occasion de la voir. En tout cas, vous avez jusqu'à la fin de l'été pour la découvrir et ou de découvrir toutes les animations et rencontres qu'il y a autour. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement, on va essayer de comprendre nos peurs de la nuit. C'est quand la nuit tombe, nous perdons nos repères, hein, notre environnement semble plus se transformer, devient même terrifiant pour ça.
Absolument.
Voilà. Donc pourquoi la nuit nous fait-elle peur? Sommes-nous tous conditionnés à craindre l'obscurité? S'agit-il simplement de notre imagination? Voilà autant de questions que nous avons envie de vous poser aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je vous présente, vous êtes Jessica Bourgin. Vous êtes alors, j'ai pris mon petit papier pour pas m'emmêler parce que généralement j'ai l'habitude de le faire. Donc, vous avez présenté votre thèse de doctorat à l'Université Savoie-Mont-Blanc, mais au préalable, vous aviez fait le master national. Alors, je prends mes notes comme ça, je ne suis pas me tromper. Puis je me mets à la lumière. De neuropsychologie, pardon, et de neurosciences cliniques. Et là, c'était à Grenoble, l'Université Grenoble-Alpes. Et aujourd'hui, vous êtes ingénieur dans deux laboratoires de psychologie. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Entre Midi et Sciences, hein, donc, nous avons juste une toute petite heure. La première demi-heure, nous allons vous la consacrer entièrement. Vous allez nous expliquer un petit peu ce sujet. Et ensuite, on gardera les 30 minutes suivantes, justement, pour échanger avec vous, voire débattre sur cette thématique. Et sans plus attendre, merci d'être là et je vous laisse la parole.
Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Oui, très bien. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être si nombreux. Je ne m'attendais pas à une salle aussi remplie. Je suis un petit peu intimidée. Donc, la peur de la nuit, la peur de l'obscurité, c'est quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire commun et notamment dans les œuvres de fiction visuelle. Donc, je pense que vous connaissez tous ce magnifique chef-d'œuvre d'animation qui est Blanche-Neige et cette fameuse scène dans laquelle Blanche-Neige s'enfuit dans la forêt la nuit. Elle a l'impression qu'il y a des yeux menaçants qui la regardent, que les branches des arbres essaient de l'attraper. Il y a également des œuvres un peu plus pour adultes, par exemple The Descent, qui est une œuvre pour les amateurs de spéléologie. The Blair Witch Project, qui était aussi présenté sur la première diapo, pour les amateurs de promenades en forêt nocturne et d'urbex. Les jeux vidéo également, on a par exemple Silent Hill 2, dans lequel on a de nombreuses menaces qui se cachent dans l'ombre et dans le brouillard, qui a des propriétés très proches de l'obscurité. Et on a même des incursions dans la musique, avec notamment ce morceau Fear of the Dark de Iron Maiden, dans lequel on a cet homme qui se balade dans la rue et qui a l'impression qu'une menace se rapproche de lui. Plus la lumière change, plus il se sent menacé par quelque chose qui se rapproche. Et du coup, je pense que si vous êtes si nombreux, enfin, en tout cas, voilà, c'est une de mes hypothèses, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que cette peur de la nuit, c'est quelque chose qui vous interpelle, que peut-être vous avez vécu vous-même, vos enfants, des proches. Et donc sachez que vous n'êtes pas seul, parce que si on regarde la littérature, effectivement la peur de la nuit est quelque chose qui est très présent, alors notamment chez les enfants, mais pas uniquement. C'est une peur, comme tant d'autres, qui se développe très tôt. Merci. On a un pic vers 3-4 ans, les enfants ont majoritairement des peurs la nuit, donc avec une fréquence qui peut varier, mais voilà, qui est très présente chez eux à cet âge-là. Quand on avance un petit peu en âge, c'est quelque chose qui reste très présent chez les 4-12 ans, et c'est quelque chose qui est indépendant de la culture. Il y a des études qui ont été faites en Inde, aux Pays-Bas, dans les États-Unis, en Russie. Cette peur existe un peu partout. Après, c'est le folklore qui va un petit peu changer. C'est une peur qui, quand même, heureusement, diminue avec l'âge, mais on la retrouve quand même très présente chez les adolescents. Alors après, ils peuvent déclarer avoir peur de temps en temps. Voilà, ça diminue quand même en fréquence, mais ça reste présent. Et chez les adultes également, c'est quelque chose qui perdure, c'est quelque chose qui marque. Et notamment, ce qui me semble assez intéressant, c'est que même chez les adultes qui rapportent ne plus avoir peur de la nuit, c'est quand même, quand on leur demande quelles sont les peurs d'enfance dont ils se rappellent, c'est la première peur qui est rapportée. C'est quelque chose qui vraiment les marque notre mémoire émotionnelle. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là, parce que la question c'était, est-ce que quand la nuit tombe, nos peurs prennent le dessus? La réponse c'est oui, voilà, merci. Des questions? En recherche en général, on ne s'arrête pas à décrire les phénomènes, on essaie de comprendre pourquoi ils sont là, quelles peuvent être leurs fonctions, quels peuvent être les mécanismes derrière, et donc en fait l'essentiel de ma présentation, ça va être de s'intéresser à ça. Alors, une première hypothèse, c'est qu'on peut considérer que la peur du noir, bah, elle a une fonction, elle nous aide, c'est une réponse adaptative face à l'environnement qui est menaçant. Et quand on parle d'adaptation, en général, on pense à un célèbre barbu du 19e siècle, donc Charles Darwin, qu'on connaît beaucoup pour sa théorie de l'évolution et son livre L'origine des espèces, mais qui a également publié un petit peu plus tard un autre ouvrage qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Et dans cet ouvrage, en fait, il fait une sorte de catalogue de comportements qu'il observe chez les animaux et chez l'homme à différents âges. Et c'est ces comportements qui auraient un rapport avec ce qu'il appelle des états d'esprit. Par exemple, on peut observer ce petit chat ici qui adopte ce qu'on appelle le comportement combat-fuite. Donc alternativement, il essaie de paraître intimidant. Voilà, là on le voit ici, il est très intimidant, très menaçant. Ça, c'est une potentielle menace et il alterne avec la fuite, ce qui est un comportement qui en général est associé à des états de stress et à des émotions de peur ou de colère suivant sur le comportement qui est adopté. Et donc Darwin, il souligne déjà ce côté inné, le fait qu'on observe ces comportements chez des jeunes, donc là je vous ai montré un chaton, mais chez les bébés on a aussi ce type de comportement. Il y a ce côté universel, voilà, dans un grand nombre d'espèces il retrouve ces comportements. Et donc il y a vraiment ce côté où les émotions ce serait un héritage, le fruit de l'évolution. Ensuite il y a une théorie un petit peu plus récente qui s'est intéressée à ce côté évolutionnaire des émotions, c'est la théorie des émotions de base, qui a été développé par Paul Ekman, donc un chercheur américain, dans les années 80. Et donc Paul Ekman, en fait, il a essayé d'identifier un certain nombre d'émotions qui seraient associées à des expressions faciales particulières, distinctes. Donc ici, de gauche à droite, on a la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la joie et la tristesse. Et donc, en fait, il a essayé de voir si ces émotions, elles étaient reconnues et produites indépendamment de la culture. Et donc, ce qu'il a fait, c'est que déjà, il a fait passer des expériences, donc il présentait des images comme ça, que vous voyez ici, à des personnes en leur demandant, à votre avis, quelle est l'émotion ressentie. Et ensuite, il mettait ses participants dans des conditions où il leur demandait si, par exemple, vous perdez quelque chose, quelle est l'expression faciale que vous allez produire. Bah, ça ressemblera peut-être à quelque chose comme ça, si vous avez perdu quelque chose. Si, au contraire, on vous a offert un cadeau, ça va être une expression comme ça. Et donc, ces émotions-là, il les retrouvait à la fois chez les populations occidentales, mais également chez des populations qui n'avaient pas du tout été exposées à la culture occidentale, en l'occurrence ici c'était en Nouvelle-Guinée. Donc voilà, on retrouve à nouveau ce côté universel, donc là côté expression faciale et chez les humains plutôt. Une autre chose que je voulais souligner, c'est que ces expressions faciales, elles ont une valeur adaptative. Donc si je vous prends pour exemple le dégoût ici, qu'est-ce qui se passe quand on exprime le dégoût? On va froncer le nez comme ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va limiter l'entrée des molécules d'air de l'objet qui nous dégoûte potentiellement. Et on va avoir aussi en général un mouvement de recul. Donc pareil, on essaie de s'éloigner de l'objet de notre dégoût. Et une autre chose, c'est que évidemment, ces expressions faciales, elles sont fondamentales pour les interactions sociales. Donc par exemple, si je regarde comme ça derrière vous avec un air un petit peu inquiet, vous allez peut-être vous dire, bah, y a peut-être une menace là-bas, donc ça va être utile pour vous de regarder mon expression. Si par exemple vous faites une expression un peu comme ça, que je regarde au loin, vous allez peut-être vous dire que la menace elle vient plutôt de par ici, et peut-être aurez-vous raison. Alors les expressions faciales, c'est une petite partie de ce qu'on appelle les émotions. Mais on va voir qu'en fait les émotions, ce sont des phénomènes qui comportent beaucoup de composantes qui ont un rapport avec le fait de se mettre en mouvement. L'émotion, ça vient du latin ex, vers extérieur, movere, mettre en mouvement. Et donc selon la théorie actuelle, une émotion surviendrait à la suite d'un événement. Voilà, on a un événement qu'on va appeler déclencheur. Et cet événement, il va entraîner tout un tas de réactions chez nous, donc des réactions physiologiques. Par exemple, notre cœur qui va s'accélérer, notre respiration qui va changer, une tension dans nos muscles, etc. On va avoir des tendances à l'action. Donc si c'est quelque chose qui est plutôt plaisant, on va s'approcher. Si c'est quelque chose qui est plutôt déplaisant, on va s'éloigner. On a l'expression dont on a parlé. Et on a enfin ce à quoi on pense en général quand on parle d'une émotion, mais qu'au final est un peu secondaire, c'est le sentiment, c'est le fait de dire je suis heureux, je suis content, j'ai peur. Mais voilà, vous êtes d'accord pour dire qu'a priori, quand on a peur, on ne dit pas j'ai peur. Voilà. Sans rien, il se passe, il y a des mouvements qui se passent. Et c'est ça qui est fondamental. Oui, donc je voulais vous présenter quelques exemples. Donc mettons par exemple que je sois exposé à ce merveilleux sandwich au brie. Donc voilà, c'est mon événement déclencheur. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, a priori, je vais trouver ça. J'ai entendu des « Et oui, mais c'est vrai, j'avais même pas pensé. Bonne remarque. Désolée du coup pour cette simulation trop pertinente. Donc, on va avoir des réactions physiologiques qui vont conduire à saliver, peut-être que c'est votre cas, du coup, si vous êtes amateur de fromage. Vous allez avoir une tendance à l'approche, voilà, pour se rapprocher de ce stimulus qui est intéressant, et puis une expression plutôt de contentement. Vous allez pouvoir dire, je suis content, ce sandwich au brie me satisfait. On va même pouvoir avoir des comportements d'approche. Bon là, en l'occurrence, ce monsieur, a priori, c'est la première fois qu'il voit un sandwich, étant donné qu'il l'attaque par le milieu. Ou alors, autre hypothèse, c'est peut-être qu'il est dirigé par un réalisateur un petit peu particulier. En l'occurrence, David Lynch, donc oui, réponse B. Si on prend un autre stimulus, juste pour avoir un deuxième exemple. Donc là, si je vous présente cet autre stimulus, qui est pourtant très simple, qui serait très simple pour vous, mais qui a une odeur un petit peu plus prégnante, on va dire. Là, on pourrait avoir des réactions chez certaines personnes plutôt de dégoût, donc comme on l'a vu tout à l'heure, le froncement du nez, le mouvement de recul. Et si on va un peu plus loin, voilà. Donc là, cette dame a choisi d'ingérer ses sardines, mais on se dit bien qu'elle a subi une pression sociale. Elle est à la télé, donc elle a choisi son image sociale plutôt que ses préférences, mais on voit bien que si elle pouvait, elle recracherait sans tarder ses sardines. Voilà, donc ces deux exemples et ce modèle pour vous illustrer que les émotions, elles nous préparent à l'action, donc avec les réactions physiologiques. Les expressions, le fait de s'approcher, de reculer. Et donc, en fait, ça fait sens qu'elles aient été conservées par l'évolution, puisqu'elles favorisent la survie, simplement. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais le sujet, c'est la peur de la nuit, est-ce qu'on y arrive à un moment ? Donc, oui, la peur, je voulais m'attarder un petit peu plus dessus pour voir ce qui se passe au niveau des mécanismes cérébraux, notamment. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est face à un stimulus potentiellement menaçant, donc par exemple ici un serpent. Ce serpent, il va projeter une image dans ma rétine. Ensuite, il y a un signal qui va être envoyé vers une petite aire cérébrale ici qui s'appelle le thalamus, qui est en fait une sorte de relais sensoriel. C'est une aire qui reçoit des afférences de la part de l'ensemble des voies sensorielles et qui ensuite diffuse à son tour un signal vers les autres aires qui sont pertinentes pour traiter cette information. En l'occurrence, le thalamus, il va envoyer à son tour un signal vers une autre aire qui est très importante, qui m'intéresse beaucoup, qui est l'amygdale. Donc l'amygdale n'a rien à voir si jamais avec les amygdales dans la gorge, c'est une aire cérébrale donc qui se trouve des deux côtés de notre cerveau, puisque notre cerveau est organisé de manière symétrique. On a un hémisphère gauche, un hémisphère droit qui sont quasi en miroir. Au niveau des fonctions, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Et donc cette aire, elle a intéressé notamment ce monsieur, Joseph Ledoux, qui a ma foi une fort belle guitare, et j'ai mis cette image pour une raison, c'est qu'il a créé un groupe de rock qui s'appelle The Amygdale Wheels, donc en hommage à l'amygdale. Je trouve ça assez classe. Donc l'amygdale, qui est une zone qui est impliquée dans la peur, mais aussi dans plein de mécanismes liés à l'émotion, liés au fait de détecter des choses pertinentes dans notre environnement. Donc là, ce qu'elle va faire en l'occurrence, c'est qu'elle va envoyer à son tour, et après ce sera le dernier système, elle va envoyer un signal vers le système nerveux sympathique. Donc le système nerveux sympathique, c'est une partie de ce qu'on appelle le système périphérique, puisque donc on a le cerveau qui fait partie de notre système nerveux central, mais on a aussi des nerfs dans tout le corps, qui relient notre cerveau à des récepteurs sensoriels un petit peu partout, et à des neurones moteurs, donc, qui nous permettent de faire des actions. Et en l'occurrence, le système nerveux sympathique, il va être impliqué pour justement mettre en branle notre système pour réagir le plus vite possible à ce qui est potentiellement menaçant. Donc on va avoir une accélération de l'activité cardiaque, une augmentation de la pression sanguine, de la tension musculaire, ce qui va nous préparer à l'action. Et donc ce circuit, donc, qui a été étudié notamment par Ledoux et puis par des gens plus actuels, chez l'animal et chez l'homme, il a montré en fait que ce circuit fonctionnait de manière extrêmement rapide. Donc en 30 millisecondes, voilà, le signal a parcouru le chemin et on peut donc réagir à l'information menaçante pour s'en éloigner le plus vite possible. Donc c'est ce qui explique par exemple des réactions. Si vous voyez un serpent au bout de votre lit, vous allez très vite avoir une réaction de sursaut avant même d'avoir conscience de ce qui se passe. Et donc ce qui se passe avec ce circuit, c'est que il va être très rapide, mais donc comme j'ai dit, il se fait sans conscience. Donc que ce soit une chaussette au bout de notre lit ou un serpent, on va réagir et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on va se dire est-ce que vraiment il y avait une menace et du coup on va vraiment fuir, ou est-ce que c'était une fausse alerte et du coup on va se calmer. Et donc ce qui permet de déterminer que en fait c'était soit confirmé, soit infirmé notre première hypothèse, ça va être un circuit qui est en vert ici. Donc le thalamus va aussi, en parallèle de ce qu'il envoie vers l'amygdale, envoyer un signal vers le cortex visuel, donc qui est à l'arrière du cerveau. Et ce cortex visuel, il va permettre d'interpréter le stimulus qu'on a vu de manière plus précise, plus détaillée, et du coup, voilà, de voir si, comme je l'ai dit, on confirme ou pas la première hypothèse. Donc, ce que met en avant l'ensemble de ce système, c'est qu'on aurait ce pré-câblage qui nous permettrait de réagir très vite, de manière très efficace envers des situations potentiellement dangereuses, ce qui favoriserait notre survie. Alors maintenant, la nuit. Donc la nuit, bon, je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes, mais la nuit, on ne voit pas bien. Votre système visuel n'est pas prévu pour bien fonctionner la nuit, pour bien identifier les stimuli qui sont présents. C'est en plus une situation dans laquelle on va être très vulnérable, puisque c'est une période qu'on associe au sommeil, donc au fait de se mettre en danger, d'être à la merci des potentiels prédateurs. Et c'est en général une période qui est associée aussi à la solitude, en particulier chez les enfants. En général, c'est le moment où ils vont aller dans leur chambre, se séparer des parents, et donc être potentiellement vulnérables face à des menaces. Et donc ces éléments-là, ils vont dans le sens de dire qu'a priori, il serait préférable pour les individus d'être prudents face à la nuit. Donc a priori, la sélection naturelle va privilégier des individus qui sont prudents. Donc, ce qui n'est pas le cas de ce monsieur, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il interprète les lumières ici comme étant des lumières de la ville, alors que c'était des prédateurs, donc lui, il n'a pas été conservé par la sélection naturelle. Voilà, donc a priori, la sélection naturelle, elle va privilégier des gens qui vont être prudents, quitte à avoir des fausses alarmes et du stress, plutôt que des gens qui vont se dire « non, tout va bien », et puis voilà, se faire bouffer la nuit. Et donc, ces éléments-là, ils justifient en fait ce qu'on va retrouver. Je vais vous présenter quelques études après, qui montrent qu'on a un biais de négativité la nuit. Donc, c'est-à-dire que les stimuli qui sont interprétés comme potentiellement menaçants, aversifs, ils vont entraîner une réaction plus forte de notre part, donc que ce soit au niveau physiologique ou comportemental. Donc ici, dans ce protocole, les chercheurs plaçaient des participants dans une pièce, donc la passation expérimentale se faisait soit le jour, soit la nuit. Et ils leur présentaient en fait des stimuli qui pouvaient être émotionnellement neutres, ou négatifs. Et leur tâche en fait c'était de faire ce qu'on appelle une tâche de go-no-go. C'est une tâche qui est classique en psychologie expérimentale, où en gros l'idée c'est qu'on leur dit t'as un stimulus qu'on va appeler cible, donc là c'était soit une image, soit un son. Quand ce stimulus apparaît, ils doivent appuyer sur un bouton. Et si c'est autre chose, donc un distracteur, en l'occurrence c'était des images émotionnelles ou neutres, ils doivent rien faire. Mais ce que permet ce protocole, c'est en fait de maintenir l'attention des participants, être sûr qu'ils font bien attention à ce qu'on leur présente. En même temps qu'on leur faisait passer cette tâche, on enregistrait leur activité physiologique, donc à savoir leur activité électrodermale. Donc l'activité électrodermale, en général, on mesure sur les doigts parce que c'est une activité qui est liée à notre sudation, en fait, notre transpiration. Et on transpire quand on stresse, ma foi. Et on enregistrait également l'activité cardiaque. Et donc ce que les auteurs ont observé, donc là en ordonnée, c'est l'activité électrodermale, l'intensité de l'activité électrodermale. Ils ont vu que ce soit pour des stimuli effrayants au niveau visuel ou au niveau auditif, les participants avaient une réactivité physiologique plus élevée lorsqu'ils passaient la tâche la nuit plutôt que le jour, ce qui va bien dans le sens d'hyperactivité, d'hyperréaction aux stimuli aversifs la nuit. Une deuxième tâche, parce que là du coup c'était la nuit, il y a eu un autre protocole où ils ont regardé si l'obscurité avait un effet, donc indépendamment de l'heure à laquelle la passation était faite. Donc là, un protocole un petit peu similaire, puisque les gens étaient placés dans une pièce, donc soit avec la lumière allumée, soit avec la lumière éteinte. On enregistrait cette fois leur activité musculaire. Et en fait, ce que les chercheurs faisaient, c'est qu'ils leur présentaient des sons dans l'oreille qui pouvaient être intenses. Et on sait que ça entraîne un phénomène qui est assez connu, qui s'appelle le clignement réflexe. Quand on vous met un bruit très fort dans l'oreille, vous allez avoir tendance à faire comme ça. Et donc, ils voulaient voir, pareil, si l'obscurité avait un effet sur l'intensité de cette réaction. Et donc, ils ont observé que c'était le cas. Donc là, on a l'intensité de la réaction musculaire en ordonnée. Et on voit que lorsque les participants étaient dans l'obscurité, cette réaction est un petit peu plus élevée que quand ils étaient dans la lumière. C'est ce qui a reflété la différence entre les deux, elle est ici. Dernière étude sur ce sujet, je vais juste présenter un argument un petit peu plus indirect là-dessus. Donc une autre étude, pareil, les participants dans la lumière ou dans l'obscurité, cette fois on mesurait simplement leur activité cérébrale avec de la neuroimagerie. Donc là, il n'y avait pas de tâches associées, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu indirect, parce que pour avoir un argument plus convaincant, il faudrait coupler ça avec des comportements. Et donc ce qu'ils ont observé, c'est que la réactivité de l'amygdale était réduite lorsque les participants étaient placés en lumière plutôt que la nuit. Étant donné qu'on a vu tout à l'heure que l'amygdale était fondamentale dans les mécanismes de peur, voilà, c'est pour ça que c'est un argument indirect. A priori, l'amygdale serait plus active la nuit, moins le jour, et donc ça pourrait justifier que le comportement qu'on a observé dans les autres études. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là, dire bah oui, la nuit, il fait noir, c'est pertinent d'être prudent, et voilà. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'on peut moduler notre hyper-réaction à la nuit ou à l'obscurité. Et donc, c'est ce que je voudrais vous illustrer avec des petits exemples. Donc là, imaginez que vous êtes couché à côté de votre être aimé, tout va bien. À un moment, il lui prend l'idée saugrenue d'aller boire un verre, d'aller aux toilettes, etc. Donc il va allumer la lumière, vous allez entendre le bruit de ses pas dans le couloir. Puis il va revenir se coucher. Donc, je pense qu'à priori, vous serez d'accord pour dire que dans ce cas-là, vous n'avez pas une émotion qui est ultra intense. Peut-être un petit peu d'agacement aussi, parce qu'il vous a fait un peu du froid quand il s'est levé, ou que sais-je. Mais bon, a priori, pas grand-chose. Maintenant, même situation de départ, vous êtes couché à côté de votre être aimé. Quand, d'un coup, vous entendez des bruits de pas dans le couloir, la lumière s'allume. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. Je pense que vous allez être dans un état de panique absolue. Vous allez vous dire, mais il y a quelqu'un chez moi, mais pourquoi faire? Mais on veut me voler, on veut me tuer, qu'est-ce qui se passe? Donc vous allez vous tourner vers votre être aimé pour vous rendre compte qu'en fait, bah, il est plus là. Donc c'est lui qui faisait ce bruit dans le couloir. C'est juste que vous avez raté cette information. Ce qui a entraîné une émotion d'une intensité rare. A priori. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Donc ce petit exemple, cette petite anecdote pour illustrer qu'en fait il n'y a pas vraiment de situation émotionnelle en soi. Donc là, vous serez d'accord pour dire que dans les deux cas, la situation est exactement la même. Il y a un peu de lumière, il y a des bruits de pas. Pour autant, dans un cas vous avez peu d'émotions, dans l'autre vous êtes au bord de la panique. Je voulais revenir rapidement donc, sur cette étude que j'ai présentée tout à l'heure, puisque il y a un élément que je n'ai pas souligné, c'est que les chercheurs faisaient aussi passer des questionnaires aux participants. Des questionnaires d'anxiété, de dépression et également des questionnaires sur les peurs qu'ils ressentaient actuellement et quand ils étaient enfants. Et les chercheurs ont trouvé une corrélation entre la peur que les participants déclaraient quand ils étaient enfants, la peur qu'ils ressentaient enfants du noir, et ça venait en fait moduler l'écart entre leur réaction la nuit par rapport au jour. Donc là, bon, ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est une corrélation, donc c'est compliqué de savoir est-ce que c'est parce qu'ils sont plus sensibles dans l'obscurité qu'ils ont eu peur enfant ou l'inverse, ça c'est une autre question, mais en tout cas ça souligne l'importance des caractéristiques individuelles quand on regarde ce genre de phénomène, et dans les émotions. Donc si je reviens sur mon modèle des émotions de tout à l'heure, on va pouvoir l'étoffer un petit peu, donc voilà, c'est toujours valable ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un événement, ça entraîne des réactions. Mais donc nos caractéristiques individuelles vont venir moduler les réactions qu'on a par rapport à un événement. Donc nos motivations, nos buts, nos expériences passées vont venir avoir un effet sur nos réactions. Donc si je prends rapidement un exemple, mettons que vous ayez échoué à un examen, si vous vous attendiez à échouer par rapport à si c'est complètement inattendu, votre émotion va être modulée. Peut-être dans un cas vous allez vous dire oh, bah oui, ok, enfin être un petit peu blasé, dans l'autre vous allez peut-être être désespéré. Est-ce que c'est pertinent pour mes buts que je réussisse à cet examen? Est-ce que c'est un examen de médecine par exemple et je rêve d'être médecin, donc ça remet complètement en question mon rêve futur, ou alors j'ai peut-être une activité à côté où je joue dans un groupe et je me dis bah non, moi je veux être rockstar, donc louper cet examen c'est pas si grave. Qui est responsable? Est-ce que je considère que j'ai pas assez travaillé? À ce moment-là, je vais peut-être être triste, être déçu de moi-même, avoir honte. Alors que si je considère que mon prof s'est trompé ou qu'il est injuste avec moi, je vais peut-être plutôt ressentir de la colère. Et voilà, il y a plein d'autres questions. Là, je ne représente que quelques-unes. Quand on fait une évaluation, il y a plein d'autres choses qu'on peut se demander. Cet élément-là, ça va nous intéresser pour la peur du noir. C'est est-ce que je contrôle la situation et dans quelle mesure? Donc si dans l'exemple de l'examen, si je considère que j'ai des ressources humaines ou monétaires pour me retourner, ça va aussi beaucoup influencer mon émotion. Et donc dans la peur, ça va être très important, ce sentiment de maîtrise, de pouvoir anticiper les conséquences d'une interaction. d'une situation. Donc là, si je prends un exemple de la culture populaire, donc vous connaissez, je pense, beaucoup le film Le silence des agneaux, dans lequel on a Clarice Starling, incarnée par Jodie Foster, qui a plusieurs interactions avec le tueur en série Hannibal Lecter. Dans ces interactions, Hannibal Lecter est placé derrière une vitre, donc sentiment de maîtrise plutôt fort, voilà, même si il a des goûts culinaires particuliers qui peuvent mettre mal à l'aise Starling, en tout cas elle va pas a priori se sentir en danger dans ses interactions, voilà, peut-être un petit peu stressée quand même, mais voilà, elle sait qu'il peut pas sortir de sa cellule, que si jamais il tente quelque chose elle peut appeler un gardien, donc a priori elle a pas de raison de s'inquiéter. Deuxième situation, plus loin dans le film, quand elle se retrouve face à un autre tueur en série, dans le noir, elle ne sait pas où il se situe dans l'appartement, bah là on voit que l'écarquillement des yeux, il est un petit peu plus accentué, même si elle a un pistolet qui pourrait influencer son sentiment de maîtrise, là l'émotion va être plus forte. Et donc ce qui se passe, c'est qu'entre ces deux situations, l'incertitude est élevée ici, alors que là elle l'est beaucoup moins, enfin en tout cas, la certitude qu'elle peut avoir peut-être, c'est qu'ici elle va peut-être mourir en fait, et du coup c'est pas, voilà, en termes d'émotions générées à partir de ça, ça va pas être incroyable. Oui, je voulais continuer un petit peu sur l'incertitude pour dire que donc elle est très importante dans l'émotion de peur, mais elle n'est pas suffisante. Donc là, si je prends cet exemple, donc cette jeune femme vient de recevoir une boîte dont elle ignore encore le contenu à ce moment-là. Cette boîte lui a été offerte par les deux personnes qui sont autour, qui ont l'air de plutôt ressentir des sentiments positifs à son égard. Donc a priori, elle est plutôt contente. Elle ressent une incertitude, mais cette incertitude, dans ce cas-là, elle est acceptable. Maintenant, si je prends une autre boîte, donc là, voilà, c'est issu du film Seven, dans lequel Brad Pitt reçoit une boîte d'un tueur en série, encore un, qui lui dit qu'il est allé chez lui le matin même, qu'il a rapporté un petit souvenir, et donc là l'incertitude qui est liée à la non-connaissance du contenu de cette boîte est absolument insupportable et est à l'origine de cette fameuse réplique que vous connaissez tous, What's in the box. Voilà, donc l'incertitude n'est pas suffisante pour ressentir la peur. Dans ce cas là les autres éléments de l'évaluation cognitive nous disent qu'a priori ça va bien se passer, là ça va moins bien se passer. Et par contre, voilà, je voulais souligner qu'elle est nécessaire, l'incertitude, pour ressentir de la peur, puisque à partir du moment où Brad Pitt comprend ce que contient la boîte, bah, il va ressentir tout un tas d'autres émotions négatives, la tristesse, le sixième péché capital, la colère, mais en tout cas, là, on n'a plus du tout de peur à ce moment-là. Et donc, pour revenir à la nuit, oui, voilà, donc je voulais détailler un petit peu une étude qui a été faite pour où les participants étaient interrogés sur ce qui leur faisait peur exactement dans la nuit. Donc on leur demandait déjà est-ce que tu as souvent peur de la nuit, et ensuite qu'est-ce qui te fait peur spécifiquement. Donc c'était fait chez les enfants et chez les adolescents. Et donc ce qu'on observe, bon, déjà il y a des choses qui évoluent un petit peu, on peut en reparler après si vous voulez, quand on avance en âge. Mais par contre, ce qui reste, c'est la peur qui est liée plutôt à la sécurité, donc c'est-à-dire à la présence d'intrus, spécifiquement en général, ou au bruit, et plus largement aux menaces environnementales, le fait de percevoir des choses qu'on n'arrive pas bien à identifier. Et donc ça souligne le fait, on s'en doutait déjà, qu'on n'a pas peur en soi du noir, mais de ce que ce noir pourrait contenir, de ce côté incertain de ce qu'il cache. Voilà, donc dans le noir, si jamais une menace existe, on a du mal à anticiper d'où elle vient, pourquoi faire, quelles sont ses intentions. Notre système visuel est impacté, donc on sait qu'on aura du mal à identifier ce qui se passe. Et en plus, si jamais il faut fuir, bah, ça va être compliqué aussi, on risque de tomber, de se blesser, etc. Et donc ce qui va jouer, en fait, donc on a une incertitude perceptive, voilà, quand on est dans le noir, cette incertitude existe. Et du coup, ce qui va déterminer est-ce qu'on a peur ou pas, bah, ça va être le reste de notre évaluation cognitive. Donc en l'occurrence, dans ce court-métrage Lights Out, que je ne vous conseille pas du tout si vous voulez dormir la nuit, c'est terrible. Donc là, on voit qu'il y a une forme ici humanoïde. Donc si la personne se dit « Ah non, mais je sais que j'ai laissé ma poupée gonflable à cet endroit, bah pas de problème, elle va plutôt être contente. Bah, c'est bon, j'ai retrouvé ma poupée gonflable. » Alors que si c'est pas le cas, bah là, la panique va être absolue, encore une fois. Et du coup, je voulais terminer, avant vos questions, sur une petite citation, parce qu'il y a des modèles récents qui suggèrent qu'en fait, derrière toutes les peurs, on pourrait avoir une peur de l'inconnu. Donc je voulais citer cet auteur que j'aime beaucoup. Lovecraft, donc, qui nous disait que l'émotion la plus ancienne et la plus forte de l'humanité est la peur, et la forme de peur la plus ancienne et la plus forte est la peur de l'inconnu. Et du coup, je voulais aussi le citer parce que je trouve que ces histoires sont assez intéressantes, puisque en général, on a des scientifiques, des chercheurs qui sont face à des phénomènes bizarres qu'ils n'arrivent pas à comprendre en fonction de leur modèle théorique actuel, ce qui finit par leur faire perdre la raison, et je trouve que c'est une assez bonne métaphore de ce qu'est la recherche. Voilà, donc pour revenir, cette fois je vais conclure avant vos questions. Donc effectivement, avoir peur la nuit, ça a un rôle adaptatif, c'est pertinent, voilà, ça nous permet de survivre a priori. Mais par contre, on peut s'affranchir de cette peur, puisque même si on est dans un état, dans cette une sensorielle, on peut quand même évaluer la situation d'une manière qui est positive pour arriver à dormir la nuit. Et donc, je vous remercie de votre attention et je suis prête à affronter l'inconnu de vos questions.
En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur nos peurs. Ben voilà, j'ai le micro qui peut servir de bâton de témoin, comme ça, voilà. Ça permet de contrôler l'incertitude.
Je voulais vous demander, on parle d'hormones du bonheur, par exemple, est-ce qu'il y a une hormone de la peur ?
Alors il y a des hormones, quand on a peur, quand on est stressé, ça va générer, ça va produire du cortisol, notamment l'adrénaline. Ça c'est des hormones qui sont liées. Enfin, je ne sais pas si vous avez une question un peu plus sur ça, mais oui, c'est en général c'est ça qui est relié au stress et à la peur.
Oui, petite question.
Oui.
Merci déjà pour la présentation. On a vu que les peurs, elles étaient quand même. Enfin, on avait plutôt peur de choses assez réelles au final. C'était le sentiment de sécurité. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des différences entre le fait de. Enfin, entre la position. Enfin, dans la position où on est. Est-ce que ça dépend, par exemple, est-ce qu'on a plus peur en ville qu'au milieu d'une forêt, par exemple ?
Je ne connais pas d'études qui tranchent là-dessus, mais je pense qu'effectivement, les peurs peuvent être différentes. En fait, ça dépend de plein de choses. Parce que, typiquement, on présentait Blair Witch tout à l'heure, et je repensais à une anecdote où une amie était allée se balader en forêt et avait vu des petits symboles qui lui rappelaient Blair Witch. Donc là, forcément, l'influence culturelle, la connaissance de certaines œuvres m'a beaucoup influencée. Mais je pense que ça peut vraiment dépendre des individus et des connaissances qu'ils ont, des éventuels traumatismes qu'ils peuvent avoir. Je dirais pas forcément qu'il y a une différence entre forêt et ville. Mais en tout cas, en ville, voilà, on a souvent cette question de l'insécurité qui revient. On sait que dans certains quartiers, il se passe certaines choses. Donc ça peut nous influencer, mais je dirais pas.
C'est pas lié à une forme de rationalité de le danger, c'est sur tous les gens.
Pas uniquement, mais oui, ça joue, c'est sûr, mais pas uniquement. Enfin, il y a plein d'influences.
Oui, merci pour votre exposé. Vous nous dites que les études montrent a priori que le milieu socio-éducatif n'a pas d'influence directe sur la peur de la nuit. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec des. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec des phobies que développent certaines personnes, par exemple des araignées, de l'eau profonde, des choses comme ça
Liées au fait qu'il n'y ait pas d'influence socio-éducative ou.
Enfin. Non, ce que j'ai compris de la présentation, c'est que le milieu dans lequel l'enfant vit n'a pas nécessairement d'influence sur la peur de la nuit ou la peur du noir qu'il développe. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et par corrélation, est-ce que des phobies développées par certaines personnes, par exemple des araignées ou des eaux profondes, il y a beaucoup de personnes qui ont ces phobies-là, suivent le même processus ou bien elles sont plutôt le fait de marqueurs sociaux, environnementaux, etc.
C'est forcément c'est toujours une question compliquée. Qu'est-ce qui est l'inné, qu'est-ce qui est l'héréditaire, qu'est-ce qui est du biologique, qu'est-ce qui est de l'environnement. Alors il y a évidemment une influence des deux. Il peut y avoir des personnes qui ont, on a observé une hyperactivité de l'amygdale par exemple, qui peut favoriser du coup l'émergence de phobie sans qu'il y ait forcément de traumatisme associé à telle ou telle situation. Après, le milieu va quand même jouer, alors que ce soit via l'observation des réactions des autres. Si par exemple un enfant observe qu'un parent a peur, un parent, un proche, une figure autour de lui a peur de quelque chose, ça va clairement l'influencer. Voilà, je ne sais plus où je vais en venir avec ça. Il y a une influence des deux en tout cas. Après, ce qui peut jouer aussi, c'est que si jamais on a une petite peur entre guillemets d'un événement, mais que pour une raison ou une autre, on se dit bah je vais l'éviter, bah ça peut renforcer une phobie sans qu'il y ait forcément de traumatisme associé. Quoi, l'évitement, ça va beaucoup jouer ça, sur l'évitement d'une situation qu'au départ, pour laquelle on a au départ une petite appréhension, ça peut vraiment renforcer et devenir une phobie à force et du coup après nécessiter. Soit d'appliquer des conseils d'exposition, soit même une thérapie pour se réhabituer à cette situation qui a acquis ce rôle-là. Quoi.
À quel moment la peur de la nuit est un problème, devient un problème ?
Alors, la peur de la nuit ou la peur d'autre chose, c'est, en fait, une phobie, au final, c'est pas si différent. Enfin, les mécanismes derrière sont globalement les mêmes que derrière la peur. Ce qui va jouer en général, c'est plutôt une sorte de curseur. À quel moment ma peur, elle est invalidante pour moi, ça m'empêche de dormir. Du coup, au quotidien, je vais être impactée. Si c'est un enfant, il va avoir des résultats scolaires qui vont diminuer. Si c'est un adulte, il ne va pas arriver à travailler. Ça va venir avec des problèmes d'irritabilité ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment quand le quotidien est impacté, que la personne considère qu'elle ne peut pas fonctionner normalement, c'est plutôt à ce moment-là où on parle de phobie et qu'on peut considérer de chercher une aide.
Ça rejoint exactement la question que j'allais poser. Est-ce que le cerveau il fait vraiment la différence entre une peur liée à un événement réel et une peur imaginaire? Comment on peut activer l'amélioration du traitement de l'information?
Je mentionne quand même qu'il y a une différence entre les enfants et les adultes. Les enfants, justement, c'est ce que je montrais sur le diapo, ce que j'ai montré très rapidement sur ce schéma, c'est qu'il y a quand même une diminution des peurs imaginaires avec l'âge. Donc là, on voit les 8-12 ans, ils ont très peur de l'imaginaire, beaucoup moins après. Je ne sais pas si ça a forcément trait avec le fait que quelque chose soit réel ou pas, mais en tout cas, on peut appliquer des techniques pour diminuer notre peur. En général, si on a une peur, ça va pas être très utile de dire non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Si par exemple je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, vous allez penser à un éléphant rose, voilà, c'est, en général c'est pas efficace de dire non, ce n'est pas là. Et du coup il y a certaines techniques qui consistent à tant pis, j'ai cette peur, elle est là, je vais essayer de la modifier. Donc si par exemple j'ai peur qu'il y ait un individu qui soit près de mon lit, même si ça n'a aucun sens, on peut dire cet individu, qu'est-ce que je peux imaginer après qui soit rassurant? Peut-être qu'il va me parler, me dire je me suis perdu, j'en sais rien. Enfin, voilà. Essayer d'inventer un petit scénario comme ça pour nous aider. Je ne sais pas si ça répond.
Est-ce qu'il y a une différence entre les peurs et les terreurs nocturnes d'un point de vue médical?
Alors.
Oui, j'allais poser la question. Le lien avec les cauchemars. Et ouais. Effectivement, on différencie dans la petite enfance les terreurs nocturnes, les cauchemars et les peurs dont vous parlez. Merci.
Ouais. Ce que je peux dire, je suis pas l'expert du sommeil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté sur vos agendas, la semaine prochaine, il va y avoir une projection débat spécifiquement sur le sommeil, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la peur qu'on ressent pendant la journée va avoir un impact sur effectivement la nuit. Il y a un lien entre le type d'émotion et l'intensité des émotions qu'on ressent dans la journée sur ce qu'on vit la nuit. Et effectivement, oui, ça va avoir un impact sur notre vie nocturne, le contenu de nos rêves. Les terrains nocturnes, c'est un petit peu particulier, je ne saurais pas vous répondre spécifiquement. Mais oui, en tout cas, l'état dans lequel on est la journée, ça favorise. Il y a un lien avec l'apparition des cauchemars, oui.
Et justement, pendant l'enfance, ces cauchemars, on les considère même normaux. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique pour qu'on les considère comme cela par rapport à d'autres peurs, aux cauchemars?
Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique?
Les enfants, en maternelle, ils font souvent des cauchemars. Mm-hmm. Et on dit que ça fait partie de la croissance. Et pourquoi on les considère comme cela, donc normaux, on les accepte. Et plus tard, du coup, c'est considéré comme...
Putain, c'est pas forcément considéré comme anormal, mais oui, on a tendance à faire moins de cauchemars et globalement à avoir moins peur quand on est adulte. Alors une explication possible, c'est que quand on est enfant, la maturation cérébrale, ça prend beaucoup de temps. Jusqu'à 25 ans environ, on a notre cerveau qui continue de se développer. Et notamment, il y a certaines aires qui se développent très tardivement, tout ce qui est les aires frontales, plutôt à l'avant du cerveau. Et ces aires-là, elles ont plein de fonctions, planification, maintien d'attention et aussi régulation émotionnelle. elles vont en fait avoir une influence sur d'autres aires, comme l'amygdale par exemple, mais comme d'autres aires. Et du coup, ça explique que les enfants ont plus de mal à se réguler, sont plus souvent sujets à la peur et au cauchemar en particulier.
Moi, je voulais savoir, est-ce que les personnes qui sont malvoyantes ou non-voyantes, elles ont le même rapport à la nuit ou pas?
Alors j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé d'études là-dessus. Ce sera mon opinion plutôt, mais j'aurais tendance à dire que oui, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas peur de la nuit, parce que la peur de la nuit pour moi c'est plutôt rapporté au concept, justement au fait qu'on sait qu'on est vulnérable. Donc pour moi, limite, elles devraient même avoir plus peur de la nuit, parce que pour le coup, il n'y a vraiment aucune stimulation, elles peuvent vraiment rien. Enfin, au niveau visuel, en tout cas, elles ne peuvent pas anticiper. Donc moi, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas peur. Au contraire, voilà, je pense qu'elles ont même plus peur. Et voilà, c'est une opinion, je n'ai pas vu de travaux là-dessus spécifiquement.
Tu t'appuies souvent sur des films pour donner des exemples. Il y a un film d'horreur qui se passe la nuit avec des cambrioleurs qui vont dans une maison qui est occupée par un homme non-voyant. Et qui est du coup avantagé parce qu'il coupe l'électricité et comme il a développé tous ses autres sens, ça lui permet d'avoir l'avantage. Et je voulais savoir du coup si justement la peur de la nuit, c'est cette peur de la perte de contrôle, elle est aussi surtout liée au fait qu'on ait beaucoup développé la vue comme principal sens de perception du monde et donc de contrôle de ce qu'il y a autour de nous, quoi.
Oui, bah clairement, on est très. Enfin, la vue, c'est le premier sens qu'on utilise pour localiser les menaces, les stimuli autour de nous. Donc, oui, pour moi, il y a un rapport, mais ouais, c'est intéressant. Je regarde ce film. Voilà.
Oui. Tout à l'heure, on faisait la comparaison avec d'autres phobies, comme la phobie des araignées. Mm-hmm. Donc, depuis qu'on a eu l'expo sur les araignées, j'ai beaucoup moins peur des araignées. En tout cas, je les écrase beaucoup moins. Ouais. Et je voulais savoir si, justement, on peut lutter contre la phobie de la peur du noir. Hein. La phobie du noir.
Bon. Ok, ouais, je pensais que vous alliez sur le fait que les connaissances peuvent nous aider à avoir moins peur. Parce qu'effectivement, c'est le cas. Quand on comprend un phénomène, bah forcément, voilà. On réduit notre peur dans l'inconnu et on peut être moins effrayé. Bon, après, les araignées, j'avais déjà vu des choses dessus, et je trouve il y a quand même des choses qui restent terrifiantes, je trouve, mais bref, c'est un autre sujet. Alors, lutter contre notre peur du noir, il y a plusieurs techniques qui existent. Notamment, il y en a une que j'aime bien, c'est le fait de se dire, ok, si j'ai peur, ça entraîne des réactions physiologiques, donc voilà, mon rythme cardiaque s'accélère, je transpire, etc. Et on peut contrer ça en fait en faisant des techniques de relaxation, de respiration, ce qui va affecter nos réactions physiologiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas présenté dans le modèle dans son entier, puisque les réactions physiologiques, c'est aussi des choses qu'on va évaluer. Donc typiquement, si on se dit là je respire calmement grâce à cette technique de relaxation, ça peut envoyer un message à notre cerveau, dire ah ben non, en fait je suis calme, donc tout va bien. Bon, après voilà, si on a des phobies, ça va pas être suffisant, c'est sûr. Voilà, mais c'est une première technique. Après, il y a des techniques aussi d'exposition. Alors soit en imagerie, où on va demander à la personne de s'imaginer être dans le noir, progressivement. Donc il peut y avoir une petite lumière, on va diminuer petit à petit, ce qui permet de confronter la personne si vraiment la phobie est très prégnante, de manière très progressive. Et ensuite, on peut aller sur ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, où là, on va vraiment avoir un travail sur plein de séances très progressives pour réhabituer la personne au fait que la nuit, finalement, c'est pas si terrifiant, en renforcer cette association entre nuit et sécurité, en fait.
Déjà, merci. Hein. Du coup, vous disiez que la peur de la nuit était très universelle. Par contre, la réponse éducative à cette question est culturelle et différente. Est-ce qu'il y a des études qui, du coup, prouvent que le modèle occidental, par exemple, de dire il faut que l'enfant aille dans sa chambre, ou d'autres cultures qui diraient le parent reste un certain nombre d'années auprès de son enfant la nuit, est-ce que au niveau des amygdales, c'est ça, dans l'âge adulte, il y a une modification de ces peurs, une augmentation ou une diminution selon le modèle éducatif utilisé.
C'est super intéressant comme question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Enfin, je connais pas de travaux qui fassent ça, donc je peux l'imaginer tout à fait. De toute façon, plus on plus on a tôt une réponse adaptée qui peut correspondre à ce que j'ai mentionné comme conseil, voilà, d'accompagner l'enfant dans sa peur pour l'aider à mieux la gérer. Donc j'ai pas de réponse par rapport à la culture, mais je voulais juste mentionner une petite anecdote qui vient de Stephen King, qui racontait qu'il avait peur de la nuit quand il était enfant, et que son père, donc en fait il avait peur qu'il y ait un monstre dans son placard, et son père, pour le rassurer, voilà, justement il a considéré, il avait ok, t'as peur qu'il y ait ce monstre, voilà, on l'accepte, et du coup il a aidé à rédiger une lettre anti-monstre. Où en gros, il a accroché une lettre sur la porte du placard pour qui disait « Monstre, ne m'attaque pas », rester un truc tout en rime pour avoir un côté vraiment ludique. Et ouais, il disait que ça l'avait vraiment aidé. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a été le point de départ d'une vraie étude expérimentale, donc où les chercheurs ont utilisé cette lettre pour voir si ça améliorait, si les enfants avaient moins peur la nuit. Et effectivement, il y a eu un effet qui a été observé. Donc, oui, c'est ce que je peux apprendre. Donc, c'est pas lié à la culture, mais...
Oui, dans ce cas-là, je me pose la question de la croyance, en fait, et du rituel de la croyance qui va venir impacter l'état presque physiologique de l'enfant et son calme. Enfin, je ne sais pas, c'est juste une question que je me pose par rapport à ce rituel de lire, comme on voit les rituels, je crois, avec des petites plumes d'Indiens. Là,
oui, c'est votre attrape-rêve.
Voilà, c'est...
Oui, c'est vrai qu'après, on peut toujours se poser la question, enfin, je ne sais pas si c'est celle que vous voulez dire, que est-ce que c'est bien d'entretenir une croyance... Non, c'est pas ça, d'accord. Oui, du coup, enfin, en tout cas, je trouvais que c'était une réponse intéressante, surtout que de toute façon, on sait que les enfants ont plus de mal que nous, que ce soit par... parce que justement, il y a des connaissances qu'ils n'ont pas encore, ils font confiance aux figures d'autorité qui leur disent cette chose-là existe, cette chose-là n'existe pas. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de tenir compte du fait que de toute façon, les enfants vont avoir pendant un moment du mal à différencier l'imaginaire de la réalité et d'utiliser le fait que l'imaginaire est encore très présent, mais peut aussi les aider, pas forcément toujours leur faire peur. Voilà.
Oui, alors moi, je vais peut-être être un truc à part. On parle des enfants. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai entendu votre thème, ça m'intéressait largement, parce que alors, moi, c'est le contraire. En fait, ce qui se passe en ce moment, quand j'étais enfant, j'avais pas peur du noir. J'ai jamais eu peur du noir, ni de la nuit. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, en vieillissant, et bien maintenant, en fait, c'est peut-être pas tout à fait une peur, mais ça l'est presque. C'est que maintenant, quand je suis dehors dans le noir, enfin dans la nuit, j'angoisse.
D'accord.
Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est vrai, est-ce que ça peut, certainement, parce que j'ai eu des chocs émotionnels il y a plusieurs années. Donc, est-ce que ça peut venir de ça? Et est-ce que c'est... Sans aller voir quelqu'un, faire de la sophro ou je sais pas quoi, est-ce que ça peut nous passer ou est-ce que ça va s'intensifier encore en plus dans les années à venir?
Alors, c'est compliqué de répondre. Enfin, encore une fois, ça dépend de tellement de choses que. Voilà. Après, mais si vous dites que vous avez eu des chocs émotionnels, oui, bien sûr, ça peut créer une fragilité qui pourrait expliquer. Mais oui, c'est compliqué au niveau individuel de savoir, surtout qu'il y a des choses qui nous influencent sans qu'on en soit forcément conscient, malheureusement. Parce que du coup, vous ne faites pas de lien spécialement, vous êtes angoissé, mais ça, vous ne le rattachez pas à quelque chose de particulier.
Non, d'ailleurs, je ne comprends pas bien, parce que je vous dis, moi, la nuit, je faisais les nocturnes il n'y a pas si longtemps, l'année dernière. J'étais toute seule dans ma voiture, je reviens seule la nuit à 2-3 heures du matin. Je me sentais bien. J'avais pas cet inconfort que j'ai maintenant.
Oui, d'accord. Ouais. Après, oui, on évolue, effectivement, ça peut. Enfin, il y a des choses qui peuvent ne pas du tout nous poser problème à un moment, et malheureusement, ça devient plus tard, et il y a plein de facteurs possibles. Après, ça peut être aussi l'évolution, parce que, voilà, comme je dis, notre cerveau évolue jusqu'à 25 ans, mais après, il continue d'évoluer aussi, donc ça peut être aussi expliqué par peut-être des modifications biologiques. Il n'y a pas forcément de rapport avec des événements, donc, ouais, là, comme ça, c'est compliqué de vous dire exactement de quoi il s'agit, mais oui, c'est possible, malheureusement, et après, la trajectoire, c'est difficile de la connaître. Voilà, je vous conseille quand même, si jamais ça pose souci, de tester les techniques de relaxation. Je trouve que c'est pas. comme ça, en tout cas, moi, typiquement, j'ai peur de parler en public en général, et ça m'aide. Voilà. Donc, ça peut.
Moi, c'est un peu en lien avec ce que disait la dame. En fait, je pensais que pour certains, surtout une catégorie à certains âges, la nuit, c'est aussi une petite mort, et du coup, ça peut générer beaucoup de peur la nuit. Et du coup, vous n'en aviez pas parlé de cette idée de la mort dans les différentes raisons. Vous l'avez, ça n'a pas été étudié ou c'est peut-être dans...
Le rapport entre la peur de la nuit et la mort, j'ai pas de travaux comme ça. Par contre, je parlais à la toute fin de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu sous-tend les deux, voilà, la peur de la nuit, la peur de la mort. En général, effectivement, ce dont on a peur, c'est plutôt de ce qui pourrait se passer et sur quoi on n'aurait pas de contrôle. Donc ça rejoint effectivement la peur de la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Qu'est-ce qui va devenir de mes proches, etc. C'est beaucoup ça qui nous fait peur.
Difficilement gérable.
Voilà, tout à fait.
Merci. Je repensais, merci déjà pour votre exposé. Je repensais aux deux dernières interventions et moi je me demandais si, par rapport à l'âge, le vieillissement du cerveau est peut-être des fonctionnements neuronaux que vous avez montré, l'amygdale. Est-ce que l'amygdale, par exemple, a la moindre souplesse? Est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a des études déjà qui ont été montrées et, là, vous nous avez montré sur les enfants et les adolescents, mais est-ce qu'il y aurait des études similaires par rapport aux personnes qui seraient beaucoup plus avancées dans l'âge?
Alors, j'ai pas eu passer de travaux sur le vieillissement. C'est vrai que ce serait super intéressant de faire ça. C'est vrai que pour l'instant, il y a encore un gros manque dans les travaux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites chez les enfants, parce que évidemment, les enfants rapportent beaucoup, beaucoup cette peur. Donc, ça amène beaucoup les chercheurs plutôt sur cette population. Après, ce qu'on sait, c'est que dans le vieillissement, l'amygdale, c'est clairement pas l'air qui va être impacté en premier. Les aires assez profondes comme ça, assez anciennes, sont relativement résistantes. Par contre, les aires frontales, elles, sont modifiées dans le vieillissement. Et comme je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, elles sont impliquées dans la régulation émotionnelle. Donc ça peut, effectivement, il y a des peurs qui peuvent émerger. Ça peut être lié à ça, à cette modification plutôt frontale. Donc, qui va impacter plein de capacités cognitives, donc la mémoire qui est bien connue, mais aussi la régulation.
Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, je me demandais, est-ce que chez les adultes, est-ce qu'il y a vraiment une réelle phobie de la peur qui existe? Est-ce que c'est fréquent? Parce que je n'ai jamais trop entendu de quelqu'un qui avait une phobie du noir, pardon. Oui. Est-ce que ça existe, la phobie du noir chez l'adulte?
Oui, ça existe.
C'est fréquent,
De mémoire, je crois que c'était dans les 3%. C'est pas, enfin, voilà, quand même. Oui, ça s'appelle la nyctophobie, effectivement. Et comme les autres peurs, oui, c'est une peur qui va impacter le quotidien chez les personnes. Je crois. Enfin, voilà, de tête, à peu près. J'essaie de le rappeler. Ouais, non, c'est pas anodin non plus.
Au hasard, je pose la question parce que j'aime bien. Est-ce que vous savez ce que veut dire la peur, l'étymologie, en fait, l'origine étymologique de la peur?
L'origine étymologique,
tout à l'heure, émotion, moi, vous...
Oui, c'est vrai, oui. Non, je ne sais plus, phobos, je ne sais plus, comme ça. Je n'ai pas révisé, désolé.
Oui, je me demandais s'il y avait une corrélation entre la peur et la créativité. Parce que là, dans le diagramme que vous présentez, on voit bien que, passé l'âge de raison, il n'y a plus que des peurs qui sont liées au sensoriel, en final, le bruit, le noir. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des études qui montrent un certain rapport entre ces deux choses?
Non, je n'ai pas, pas connaissance, parce que c'est intéressant, mais ouais, non, désolé, je n'ai pas de travaux comme ça. Mais ouais, je regarderai, c'est intéressant.
Dommage.
Désolé.
Il nous reste encore quelques minutes pour encore au moins une question. Je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent. Je voulais juste savoir, par rapport au champ de la connaissance, si finalement la peur était vraiment un objet. Vous nous avez cité pas mal d'études, mais est-ce que c'est vraiment un objet de recherche ou c'est plutôt une annexe? Et c'est vrai que les psychologues et les neurologues travaillent plutôt sur le sommeil ou d'autres sujets qui peuvent être plus impactants sur nos vies.
Alors, c'est les émotions plus largement sont un sujet parce qu'au final la peur, on peut le on peut le rattacher à la façon dont on porte attention à notre environnement. Donc en général, on va plutôt voilà, regarder ça de manière plus générale. Et après, bon, il y a quand même dans le champ clinique, les phobies sont très importantes. Mais c'est vrai qu'au niveau théorique, on va plutôt en général regarder comment on prête attention aux éléments émotionnels de notre environnement. Et c'est vrai qu'au final, la peur, oui, c'est une façon d'exprimer ce rapport à l'environnement. Mais voilà, c'est plutôt la phobie ouais, qui va intéresser les chercheurs et les cliniciens.
Très bien, je ne sais pas s'il n'y a plus de questions. De toute façon, on arrive au terme de ces échanges. Donc, pour les dernières secondes, bah, je vous laisse le mot de la fin et peut-être un message que vous souhaitez nous laisser avant de partir sur justement ce sujet des peurs de la nuit.
Ah, je n'ai pas réfléchi. non, je vais vous reciter Lovecraft. Non, en tout cas, enfin, je trouve que... Bon, cette peur de la nuit me fait penser au fait, enfin, on en a parlé brièvement à un moment, le fait que accroître nos connaissances, ça nous permet d'avoir moins peur de certains phénomènes, donc je pourrais vous enjoindre à être curieux, à essayer de vous intéresser à ce qui vous fait potentiellement peur, voilà, en ayant une exposition raisonnée en fonction de ce qui vous fait peur, mais en tout cas d'être curieux pour essayer de mieux appréhender le monde en sécurité. Voilà, c'est ce que je peux dire.
J'y sais qu'il y a Brangin, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Je profite des dernières secondes pour vous inviter à vous parler d'un nouveau rendez-vous que nous avons testé. Ce sont les rendez-vous du vendredi soir, un petit peu de science avant le week-end, c'est le slogan. Donc une fois par mois, on va vous proposer le vendredi soir à 17h des rencontres avec des scientifiques ou des artistes. Le premier de ces rendez-vous aura lieu le vendredi 20 mars, donc assez rapidement, autour d'un spectacle sur les glaciers, Melt, qui aura lieu ici même. Il reste encore une vingtaine de places, donc il faut s'inscrire, il y a un QR code, on a laissé quelques inscriptions à la sortie. Donc c'est une rencontre artistique et avec aussi des glaciologues qui vont nous parler du champ des glaciers. Donc voilà, donc c'est une à découvrir. Et ensuite, une fois par mois, on va rencontrer des paléontologues, on va rencontrer des anthropologues sur des sujets de science. Donc voilà le programme à venir, premier rendez-vous ce 20 mars. Par contre, c'est sur inscription parce que le nombre de places là, du coup sera limité. Merci à vous tous, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore le temps de déjeuner et à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci.
Merci.